Après Autoportrait de Paris avec chat et Vers l'exil, Danny Laferrière, l'écrivain issyano-québécois ou issyano-canadien, mais c'est québécois, tiens, pourquoi pas, nous offre son troisième roman illustré, L'exil vaut le voyage, que j'ai lu au cours des derniers jours et qui m'a ravi. Ce titre, Danny Laferrière le porte en lui depuis des décennies. Il nous offre, en fait, ses différents exils à lui, mais il les vit aussi à travers certains de ses écrivains favori, il est avec nous. Bonjour, M. Laferrière.
Oui, bonjour.
Alors, d'où ça vient ce titre-là, L'exil vaut le voyage? Pourquoi ce titre?
Ah, ben, c'est très simple. Chaque fois que j'entendais parler de l'exil, et cela depuis le poète Ovide, l'auteur de L'Art d'aimer, qui a été exilé d'ailleurs, l'un des premiers, et, disons, à être consigné dans l'histoire de la littérature, c'est toujours sur un ton un peu larmoyant, un peu plaintif. Et même Hugo en parle sur ce ton-là. Alors je me suis dit quand même, dans mon cas, c'était plus simple puisque j'avais 23 ans en arrivant à Montréal, dans cette magnifique ville, je ne pouvais pas me plaindre.
OK, donc pour vous, votre exil à vous n'est pas associé à ce qu'on appelle la douleur, par exemple, de quitter son pays, d'être obligé de partir, d'aller ailleurs, souvent pour des raisons politiques ou quoi que ce soit. Pour vous, c'est pas associé à un drame.
Parce que je l'ai voulu.
Ouais.
On peut toujours se plaindre. Vous savez, nous avons la même vie et il y a des gens qui se plaignent tout le temps, il y a d'autres qui passent un moment plus heureux et sur la terre, et souvent parce qu'ils l'ont décidé. J'avais décidé d'être attentif à l'endroit où je venais et d'arriver. J'avais décidé de regarder le paysage autour de moi et non de me confiner dans la nostalgie. J'avais décidé d'être là où j'étais. Et de ne pas vivre dans deux espaces différents.
Vous arriviez d'Haïti à ce moment-là. Est-ce que c'était votre premier grand voyage? Est-ce que c'était la première fois que vous sortiez du pays à l'époque?
Oui, c'était la première fois que je sortais du pays. Donc, je suis arrivé ici en plein été, au moment des Jeux olympiques. Et j'allais vivre ce grand moment des Jeux olympiques de 76. Vous savez, et Montréal avait connu un autre grand moment, c'était l'exposition universelle de 67, et presque 10 ans plus tard, les Jeux olympiques, et j'arrivais. Donc on peut dire que j'arrivais au bon moment. D'ailleurs, à l'automne prochain, et le Parti québécois allait rentrer au pouvoir, signifiant d'ailleurs une nouvelle vision politique du pays.
Ouais.
Et j'étais à un moment chat, un peu, disons, historique dans la société québécoise.
Ouais. Et comment vous avez... parce que vous quittez une société qui est totalement différente de celle du Québec, et vous arrivez dans une ville qui est en pleine effervescence. Comment vous avez vécu ce moment-là? Comment vous avez vu la ville de Montréal avec vos yeux totalement neufs quand vous êtes arrivé?
Ben, j'ai vu une ville magnifique, surtout qui vivait et ces deux parties de la journée, ce qui était plus difficile en Haïti, de vivre la nuit, parce que la nuit était, comme je l'ai souvent écrit, chargée de revolvers, la nuit haïtienne. Ouais. On était dans une situation de dictature, une dictature un peu désemparée et qui était très inquiète et qui réagissait de manière, disons, violente, si l'on peut dire. Et j'arrivais dans une ville apaisée, une ville en fête, le Montréal des nuits chaudes des Jeux olympiques. Je suis allé tout de suite et une amie m'a invité à l'accompagner au Rising Sun, le soleil levant, et la petite boîte de Doudou Boissel qui se trouve sur la rue Sainte-Catherine. Dans le quartier des Arts aujourd'hui, où j'ai vu mon premier spectacle à Montréal, c'est à Nina Simone qui chantait. J'étais assis à côté de Didi Gillespie.
Et
j'avais l'impression que ça va être tout le temps comme ça.
Ben oui, c'est ça. On a dit, mon Dieu, mais c'est donc bien extraordinaire. On rencontre donc bien des gens fantastiques simplement en sortant dans un bar.
Mais j'en ai rencontré beaucoup aussi après. Peut-être pas aussi flamboyant que Nina Simone, mais j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai eu un Montréal magnifique. J'étais très, très attentif à ce qui se passait dans la ville. Et pour pouvoir noter cela, d'ailleurs, dans des livres plus tard, surtout dans ce dernier, L'exil vaut le voyage, où j'ai abondamment parlé de Montréal.
Oui, parce que des exils, vous en avez connu beaucoup. Vous avez bien sûr connu l'exil à Montréal, mais par la suite, vous êtes allé vivre aux États-Unis pendant plusieurs années. Vous êtes aussi allé vivre à Paris, à New York. Donc, des exils dans votre vie. Votre vie, en fait, est jalonnée d'exils.
il y a des... Les exils, c'est pour les gens qui quittent leur pays et qui vont vivre ailleurs, mais qui peuvent retourner, qui ne vivent pas dans des situations de dictature. Mais pour les gens qui vivent dans une situation de dictature, il n'y a qu'un seul exil, avec plusieurs déplacements possibles.
Mm-hmm.
C'est-à-dire l'exil, c'est de ne pas pouvoir retourner au pays natal.
Ouais.
Et c'est ça l'exil. L'exil n'est pas l'endroit où vous vous trouvez après, et c'est l'endroit que vous devez quitter et qui vous est interdit. Et moi, je pense que je porte ce pays Haïti dans mon cœur, dans toutes les fibres de mon corps, dans toutes mes pores, et que chaque soir et chaque nuit, je fais un voyage à Petit-Goave, dans cette ville où j'ai passé mon enfance. Donc il est impossible de m'extirper Haïti du corps. C'est pour cela que je peux voyager sereinement en dehors d'Haïti. Il n'y a pas de nostalgie dans mon cas, puisque je n'ai jamais quitté Haïti et qu'il vit en moi dans un chaud présent de l'indicatif.
Mais je vais vous poser une question qui va vous paraître peut-être un peu étrange, mais vous avez vécu 23 ans en Haïti. Le reste de votre vie, vous l'avez vécu un peu partout ailleurs. Vous êtes retourné en Haïti, je comprends, mais vous avez vécu, ici à Montréal, aux États-Unis, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Est-ce que vous vous sentez davantage... j'allais dire, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez plus haïtien, citoyen du monde, québécois, canadien? Comment vous vous sentez en dedans de vous?
Bon, d'abord, vous savez que j'étais déjà citoyen du monde en Haïti, puisque je me souviens que quand j'étais... à Petit-Goave, dans mon enfance, durant mon enfance avec ma grand-mère, on passait la nuit dehors, assis sur la galerie à regarder le ciel. Et j'avais peut-être 6, 7, 8 ans, j'ai quitté Petit-Goave à 11 ans, et on imaginait, ma grand-mère et moi, qu'on était de passage en vacances sur la Terre et qu'on habitait sur d'autres planètes. Mercure, Vénus, Pluton et autres, Jupiter... Donc l'idée, pour moi, d'un ensemble, la Terre ne suffisait pas à notre imaginaire. On était très tranquille, on était seul, j'étais avec ma grand-mère, et on pouvait flâner dans les astres.
Ouais.
Et donc pour moi, déjà, j'avais une vision beaucoup plus qu'universelle, j'avais une vision, disons, interplanétaire du monde.
Ouais. C'était un moyen d'évasion pour vous jusqu'à un certain point.
Et tout ça. Ouais. Et puis j'ai connu une autre, j'allais dire, constellation, c'est la bibliothèque. La bibliothèque, dès qu'on entre dans la bibliothèque, on entre dans l'espace, non seulement du monde, et du monde... comme espace, c'est-à-dire tous ces pays, tous ces écrivains qu'on traduit et qui racontent des histoires qui viennent de leur pays et que j'ai mis d'ailleurs dans l'exil vaut le voyage, les Bukowski, les Miller, les Mishima, par exemple Ovid aussi, ou Hugo, ou Ducharme.
Vous ouvrez votre roman en parlant de Jean-Claude Charles, qui est un écrivain haïtien que vous avez connu et qui est très important pour vous d'ailleurs.
Absolument, c'est l'écrivain de ma jeunesse, c'est-à-dire il était un peu plus âgé que moi, mais il était le poisson pilote, celui qu'on devait suivre pour aller voir et d'autres mers et pour entrer dans d'autres eaux. Et il était poète à Paris, et donc il rentre lui aussi dans cette constellation de la bibliothèque qui me permet d'avoir un sens de l'univers. Donc quand je suis arrivé à Montréal, je voyais un pays différent, c'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire il n'y a pas de neige en Haïti. Et quand il neige à Montréal, la première neige, ce n'est pas du tout ce qu'on dit le choc culturel qui m'intéressait, c'était l'idée de regarder par la fenêtre et de voir une ville changer de couleur.
Ah oui, hein?
La neige, et quand il fait froid, si les arbres, s'il y avait de la glace et sur les petites branches frêles et qu'on pouvait voir cette glace, ça devient, c'est un pays de fées, c'est un pays de rêves. Et il n'y a pas... cette neige à Port-au-Prince en Haïti, mais nous sommes en pleine mer, en pleine Méditerranée. La mer des Caraïbes est une forme de Méditerranée. Nous sommes aussi, il y a la mer, et j'avais dit que le spectacle de Montréal sous la neige, avec la glace et les lumières qui se reflètent et dans la glace, c'est un spectacle extraordinaire, exceptionnel, mais je trouve... le spectacle de la mer des Caraïbes est plus émouvant. Donc tout cela s'additionne, ne se rejette pas et me crée. Et c'est avec ça que j'ai créé cette œuvre de 32 livres, avec cette chaleur de la Caraïbe et ce froid de Montréal, qui n'est pas uniquement froid. Nous sommes en pleine canicule ces temps-ci, ce qui est magnifique. Et donc, ce monde neuf, avec sa langue, une langue française différente de la nôtre, et une langue beaucoup plus présente, beaucoup plus directe que la nôtre, puisque notre français est un français qui permet de passer d'une classe sociale à une autre. Alors que le français du Québec est un français pour s'exprimer, pour vivre dans la vie quotidienne, qu'on peut aussi, naturellement, bien écrire, bien penser, bien parler, mais il fait partie de la vie quotidienne. Alors que pour parler français en Haïti, il faut faire un saut de côté.
Vous avez déjà dit d'ailleurs, M. Laferrière, que les écrivains québécois devraient avoir un prix Nobel. Je vous cite peut-être mal, là, mais...
Oui, je l'avais dit à Bernard
Pivot. À Bernard Pivot, je pense. Pivot,
mais ce que j'avais remarqué, c'était un prix Nobel collectif.
Oui, c'est ça.
Pour l'effort qui a été fait, et dans l'édition elle-même, la qualité de l'édition, pour l'effort qui a été fait, et dans la diffusion de la littérature, c'est quand même, à l'époque, c'était 6 millions, 7 millions, 6 millions, et de donner autant d'écrivains, d'avoir une sorte de république des lettres, si l'on peut dire.
Mais comment vous avez été perçu quand vous êtes entré à l'Académie française? Parce que votre façon d'écrire... est teinté évidemment par vos origines haïtiennes, par le fait que vous avez vécu et que vous vivez au Québec et tout ça. Pour les traditionnalistes de la langue française, là, qui occupent beaucoup de banquettes à l'Académie française, est-ce que vous avez été bien reçu par ces gens-là?
Ah, mais totalement. Totalement. La langue, elle se nourrit à toutes les sources. Au contraire, j'allais dire qu'on m'attendait, c'est-à-dire quelqu'un qui est un véritable francophone d'Amérique, qui vient d'Haïti et du Québec. Et c'était presque un cadeau. Et pour cette langue aussi qui s'ouvrait de plus en plus à la francophonie, c'est-à-dire à l'idée que la langue française ne peut être pas uniquement de France.
Non, c'est ça, elle appartient pas aux Français, la langue française.
Non.
Donc, elle appartient à ceux qui la parlent, dans le fond.
Absolument. D'ailleurs, pour entrer à l'Académie française, puisque je suis après Julien Green, qui est, je précise, né à Paris, je suis le premier étranger et qui ne soit pas nationalisé à entrer à l'Académie française, il a fallu que le secrétaire perpétuel de l'Académie française demande la question, et la question presque historique, au président de la République de l'époque, M. François Hollande, lui demandant, et à propos, est-ce que l'Académie appartient à la langue française ou à la France? Et le président répond, l'Académie appartient à la langue française. Ouais. Et la langue française appartient à ceux qui la parlent, qui viennent de n'importe où.
Ouais. Je vais juste terminer là-dessus, parce que le temps nous presse un peu, mais votre livre, vous ne dites pas que vous l'avez écrit, vous dites que vous l'avez fabriqué, je pense, c'est l'expression que vous avez utilisée, parce que c'est un livre qui est écrit à la main, d'une part, et qui est comment dire, illustré par un paquet de dessins très colorés, un peu naïfs, si on veut, dans leur composition, mais qui...
Pas tout le temps. Je crois qu'on a abusé de cela, parce que j'avais dit au début, lors du premier livre, que je ne savais pas dessiner, et les gens ont pris l'expression « je ne sais pas dessiner », au lieu de le prendre comme Socrate l'aurait dit, et tout ce que je sais, ou d'autres, c'est que je ne sais rien, et ils l'ont pris au premier degré. Et non, pas du tout. Si on parcourt, on voit une rapidité de trait, le goût du dessin naïf, mais on voit aussi des dessins beaucoup plus compliqués, des dessins extrêmement modernes, par exemple la description de Montréal, certaines descriptions de New York, les écrivains dont je parle et que je dessine, il y a près de 1000 dessins, c'est-à-dire c'est un livre qu'on peut lire et regarder d'abord, le lire ensuite, il y a assez de textes, c'est un ouvrage original, il faut le dire, on ne le voit pas, c'est pas de la bande dessinée, c'est pas du roman graphique, c'est quelque chose que j'ai voulu faire, et tout simple, c'est-à-dire écrire et dessiner à la fois. C'est un goût qui m'est venu de reprendre la main et de faire quelque chose d'artisanal et tout en étant artistique. Et on parle beaucoup de ce livre, mais on parle très rarement du montage, c'est-à-dire de la façon de placer les dessins dans les pages. Ce n'est pas si facile que ça et ce n'est pas naïf du tout.
Il faut que
la page vibre, il faut qu'on ait l'impression, c'est pas juste placer pour illustrer, il faut qu'on ait l'impression que la page vibre et des couleurs et de cette modernité qui y a là-dedans. Et oui, merci de le remarquer.
Et il y a des endroits où vous avez, il y a même le dessin est sur le texte, mais évidemment c'est très facile à lire parce que bon, il y a des mots clés qui sont comme surlignés en différentes couleurs. C'est un livre qui est magnifique, ben, qui est extrêmement bien écrit bien sûr parce que bon, c'est vous qui l'avez écrit, mais c'est un livre très original et c'est un livre c'est un beau livre en plus.
Merci de parler de l'objet, c'est-à-dire il y a aussi un plaisir de le tenir,
ouais.
Il est assez grand, mais il est souple, et on peut l'ouvrir, on peut même le regarder avec des enfants. Vous savez, un enfant ouais. de 8 ans avait dit, à propos du premier, il avait dit, « Maman, c'est un jeu vidéo en papier ».
Ah oui.
Et oui, c'est un jeu vidéo parce que les images se répondent, mais c'est un jeu vidéo pour adultes aussi. Parce que quand vous voyez Jean-Claude Charles, nous avons spontanément, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons sur Internet pour voir c'est qui Jean-Claude Charles, celui dont je parle. Et comme je parle quand même longuement de lui, on sait ce que je ressens pour lui. Mais là, avec l'Internet, on va savoir qui il est, où est-ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans ce livre. Il y a à peu près, d'après moi, facilement 500 noms. C'est un monde. C'est le monde de l'écriture, de la peinture, de la littérature. Et je cite, et ça c'est nouveau pour moi, et ça, moi c'est mon invention à moi, ma petite invention. Généralement, on cite les écrivains, mais on cite rarement les peintres.
Ouais.
Et quand on cite un peintre en disant que Picasso disait ou faisait, ce n'est pas une vraie citation. Un peintre doit être cité par son tableau. Et bien moi, je refais les tableaux.
Oui.
Je refais les tableaux, ce que j'ai fait un peu partout et que j'avais fait vers d'autres rives.
Ouais.
Et donc, je refais les tableaux. Et donc, on a une citation personnalisée. Comme quelqu'un qui cite, et vous avez dit tout à l'heure, à propos que vous citez de mémoire et vous n'êtes pas sûr, eh bien exactement, comme quelqu'un qui cite de mémoire, le dessin que j'ai fait n'est pas exactement la même chose que le vrai tableau, mais ça y ressemble.
C'est ça, c'est l'inspiration. Daniel Ferrière, félicitations pour ce livre magnifique, et puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir raconté ces belles histoires.
Merci pour cette conversation, monsieur.
Au revoir. Dany Laferrière est écrivain, il est académicien. Il publie aux éditions Boréal son troisième roman dessiné qui s'appelle « L'exil vaut le voyage ».